L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Vous avez peut-être aimé la semaine dernière le premier volet de notre série de deux émissions sur les amours connectés. Une chose en tout cas est certaine, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les métamorphoses de l'intimité. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'amour connecté qu'il faut impérativement rester la bouche en cœur. On peut se rencontrer sur Tinder pour une aventure d'un soir, tchatcher à tout va ou s'envoyer des sextos et même tromper gaiement grâce à Glidden ou adopteunmec.com. Vient un moment où ces élans du cœur se heurtent à la réalité du quotidien, à la banalité du doute ou aux errements du mensonge. Quoi qu'il en soit, ce qui frappe d'emblée quand on se penche sur ces amoureux connectés, c'est que l'évolution des technologies et des usages a radicalement changé la vie du couple.
Il y a même pas 10 ans, un SMS coûtait cher. On n'avait pas de Snap et on avait des réseaux de pas très bonne qualité. Donc avant d'envoyer un SMS, on se posait la question, c'était 10 cents et on comblait à 160 caractères. Mais ensuite, les applis et les réseaux sociaux ont compliqué le couple dès sa formation. Donc là, aujourd'hui, on l'oublie, mais on a finalement plus de freins financiers, plus de freins techniques, et on passe sa journée à partager ses émotions en live avec les personnes aimées. Alors, quand on est en couple, c'est plutôt la personne en couple, sinon c'est les meilleures copines. Et on voit bien qu'on a pris cette habitude-là de partager, de vivre hyper connecté et de partager ses émotions.
L'hypercommunication via des messageries instantanées, c'est donc l'une des caractéristiques de l'amour connecté pour la sociologue Catherine Lejal. Seulement, voilà, c'est bien mignon, mais il ne suffit pas d'être connecté pour que s'épanouissent les cœurs. Estelle a 25 ans, elle est tombée follement amoureuse de Robert lors d'un séjour aux États-Unis il y a 3 ans. Et elle a fini par rentrer en France. Alors, est-ce si facile de vivre à 6000 km de l'être aimé ?
Enfin, c'est marrant parce qu'on dit souvent les nouvelles technologies, du coup, enfin, quand j'en parlais aux gens, et c'était « Ah, la distance est dure !»« Ah oui, mais à l'âge d'Internet, en fait, bah c'est bon, c'est pas si difficile que ça. Maintenant, vous vous voyez par vidéo, vous envoyez des messages, vous vous appelez souvent. » Et oui, sauf que la distance, ça reste la distance et que ça reste dur. Et qu'il n'y a aucune nouvelle technologie qui peut enlever ce sentiment-là, à mon avis.
Bonjour Mélissa.
Bonjour Julien.
Tu as voulu documenter la façon dont l'amour s'effiloche aujourd'hui.
Oui, c'est cet aspect des relations amoureuses que j'ai souhaité aborder. La rupture, la dissimulation, la lassitude, l'adultère. Dans toutes ces crises de la vie sentimentale, impossible de le nier, les nouvelles technologies ont une incidence. Ce sont des histoires bien sûr pas faciles à confier et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous entendrez dans cette émission des personnes dont les voix et les prénoms ont été modifiés. Estelle, Sophie, Thibaut, Sarah et Camille, ce sont 5 cœurs brisés, lassés ou en train de vaciller. 5 histoires de désamour connectés. Mais revenons à Estelle et son ex-copain Rob. Une relation à distance, comment ça marche? Ou plutôt, comment ça se termine?
Alors ça a un peu évolué, ça dépendait des périodes. On est beaucoup passé par WhatsApp à un moment, c'est ce... cette appli où par le numéro de téléphone, tu peux quand même envoyer des messages sans payer, en étant connecté à Internet. Donc du coup, c'était assez pratique, c'était comme ça envoyer des textos, mais en mieux. Et puis après, on se skypait assez régulièrement, jamais assez régulièrement à son goût, mais je fais ce que je peux.
Donc vous parliez par vidéo, quoi.
Voilà, on se parlait par vidéo, c'est des conversations avec chacun sa webcam, et on se parle par vidéo, par Internet. Et après Facebook, grande majorité par messagerie Facebook, donc messagerie instantanée de base. Et moi ça me saoule en fait, ce genre de façon de correspondre en permanence, parce que déjà t'as jamais de trou, t'es toujours censé être disponible pour répondre à l'autre en permanence, ce que je trouve assez fatigant, à un moment t'as le droit aussi de faire autre chose. Et en fait, tu parles de petits trucs de la journée, enfin comme on fait avec nos potes qu'on voit à Paris, mais ensuite nous on les voit et on a des longues discussions où on discute. Donc du coup c'est pas grave, mais quand t'as pas ce genre de longue discussion, bah, en fait ta seule conversation avec ton mec revient à « Ah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai vu telle personne », et ensuite tu lui réponds « Ah oui, bah, moi aussi j'ai fait ça », et en fait t'as jamais le temps vraiment de creuser les sujets ou de discuter d'autres choses ou d'avoir vraiment une vraie interaction avec la personne. Enfin, je trouve ça assez plat comme conversation, et du coup moi ça me fatigue assez vite, et du coup je vois plus l'intérêt de répondre, ce qui peut être très frustrant pour la personne en face.
Et la vidéo, elle pouvait pas pallier à ce manque de profondeur dans les discussions, vu que vous pouviez parler en temps réel, vous voir également?
Alors, la vidéo, je n'aimais plus du tout passer du temps sur Skype, parce que mine de rien, passer du temps sur Skype, c'est passer du temps sur Skype. C'est-à-dire que c'est une heure et demie où t'es posé devant, tu poses tes fesses sur un canapé, où tu parles à autre personne, où tu pourrais être en train de faire plein d'autres choses, et t'as plein de trucs à faire, et tu les fais pas. Enfin, il n'y a jamais un moment dans une vraie relation de personnes où on discute. Tu vois, là, toi et moi, on est en train de prendre un thé, par exemple. Enfin, tu fais toujours quelque chose. T'es toujours, tu vas au musée, tu vas au cinéma, tu te balades dans la rue. Enfin, t'es toujours en train de faire des choses quand tu discutes. Et le fait d'être juste planté là, en face de quelqu'un, à lui raconter ma vie et à ce qu'il me raconte sa vie, moi, je m'ennuie, quoi. J'étais là au bout de 45 minutes. Je vais peut-être y aller, quoi. Parce que j'ai autre chose à faire et qu'on a fait le tour. Enfin, on s'ennuie, non ? Mais c'est pas... C'était pas à cause de mes sentiments pour lui qui étaient pas assez forts, et je me suis beaucoup posé des questions pendant longtemps à cause de ça. Mais je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment qu'on serait pas restés ensemble pendant 3 ans si on n'était pas amoureux. Je pense juste que vraiment, moi, c'est pas un mode de communication qui me convient du tout. Du coup, voyons... Alors, c'est tout en anglais, hein. Mais genre, par exemple... C'est bizarre de relire des messages, parce que là, par exemple... Vu que je te disais, on n'utilisait plus WhatsApp et que Facebook, du coup, si je commence à remonter les conversations Facebook, ça va être une galère. Mais là, par exemple, les derniers messages, c'est 31 octobre 2015, quoi, donc ça fait bizarre.
Sur WhatsApp, ah.
Ouais, sur WhatsApp. Des messages comme ça, où vraiment, c'est 3 mots, où je lui dis « Salut, ça y est, moi j'ai les clés pour mon nouveau petit cocon, c'est sympa, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de four, il n'y a pas d'internet, il y a juste un micro-ondes. » Ouais, c'est un 6 mètres carrés. Et du coup, voilà. Et là, par exemple, je vois qu'il m'avait répondu avec une question auquel je n'ai pas répondu pendant 5 heures. Et voilà. C'est très représentatif de notre relation. En fait, moi, ma personne numérique, et encore une fois, je le conçois très bien, ça doit être 5% de ma personnalité, parce que c'est vraiment pas un truc... Enfin, je suis vraiment la reine, pour même avec mes amis que je vois à Paris, pour jamais répondre aux textos, jamais répondre aux mails... je suis vraiment assez nulle là-dessus, et du coup, même dans ma relation avec les gens que j'aime, ça peut être frustrant. Donc, et du coup, lui, il voulait plus gérer cette frustration-là. Donc voilà. Et je pense qu'il a eu raison, en absolu. Je pense que le plus dur dans une relation à distance, c'est de faire des choses et te dire, il est pas là. Même si t'envoies des photos, t'envoies des vidéos, et tu dis, c'était sympa, ça aurait été sympa que tu sois là. Enfin, ça n'a rien à voir. Et c'est des expériences que tu partages pas ensemble. Et c'est marrant parce que moi, pendant toute notre relation, même si en tout on est resté 3 ans et demi ensemble, je mettais toujours bout à bout les temps qu'on avait passés ensemble. Parce qu'en fait, le reste, ça compte pas.
Please, 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 please.
Mariée depuis 18 ans en étant extrêmement fidèle, et bien le couple finalement parfois s'use. J'ai un mari qui se déplace énormément et le temps passe, et je viens d'avoir 51 ans et c'est le moment de se dire qu'on a encore envie de plaire, d'être féminine, élégante.
Et qu'est-ce qui t'a amené à ce site glidden.fr?
Alors c'est très simple, j'ai vu une publicité... à l'extérieur, une affiche.
Mais c'était déjà indiqué que c'était des sites de rencontres pour personnes qui étaient déjà mariées.
Alors je pense que... Non, c'était pas affiché aussi précisément, je pense. Mais je crois qu'il devait y avoir peut-être le mot de liberté, de découverte. Et je me suis absolument pas posé de questions, parce que j'avais l'impression tout à fait immédiate qu'on allait droit au but. C'est-à-dire qu'on ne passait pas par des présentations avec des recherches sentimentales. Ma recherche était beaucoup plus basée sur la sexualité. J'ai dû commencer au mois de juillet Ensuite, ça a été évidemment un peu entrecoupé du fait des vacances scolaires. Et donc, mes premières rencontres se sont faites, je pense, début septembre. J'en ai rencontré, je pense, une quinzaine, hein, physiquement. Ce qui est beaucoup en peu de temps. Voilà.
J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit.
Le phénomène des sites de rencontres extra-conjugales est plutôt récent. Le site Glidden dont il est question existe depuis 2009. Ce genre de plateforme reflète, selon la sociologue Catherine Lejal, une nouvelle manière de penser l'adultère.
Alors, le terme de fidélité, il a aussi beaucoup changé. Depuis toujours, d'abord, la première chose, c'est depuis toujours, les hommes et les femmes ne comptent pas les partenaires sexuels de la même façon. Toutes les enquêtes sur la sexualité le prouvent. Les hommes ont eu beaucoup plus de partenaires que les femmes parce qu'elles ne comptent pas de la même façon. Un homme va compter, même un petit flirt un peu prolongé, va le compter comme vraiment un partenaire. Et la femme va ne garder que les personnes les plus significatives pour ne pas passer pour une personne facile ou une traînée. Donc on avait déjà une façon de compter qui était un peu différente. Aujourd'hui, c'est plutôt la notion de qu'est-ce qu'est l'infidélité. Alors l'infidélité, ça peut être à partir du moment où il y a un rapport sexuel avec l'autre, on est infidèle. Ça, c'est la version classique, traditionnelle, historique. Aujourd'hui, on est sur une vision plus pragmatique de se dire, bah, finalement, on a un couple, on a une relation qui nous apporte beaucoup de choses. Est-ce qu'on va la remettre en cause pour une petite incartade? Ce qui reste toujours très inacceptable, c'est la liaison. Ça, c'est de l'infidélité. Donc aujourd'hui, on est sur une vision où l'infidélité, qui n'est pas négociable, c'est la liaison. Parce qu'on considère que la petite incartade, oh, il n'y avait pas de sentiment. Voilà. La vraie infidélité, avec des liaisons, vraiment, elle a toujours existé. Aujourd'hui, Internet permet deux choses. C'est que ça soit beaucoup plus discret, parce qu'on a un portable et non pas... c'était même pas le téléphone, c'était une voiture qui se garait devant chez quelqu'un et on savait, voilà, notre médecin de famille, c'était avec la caissière de la petite supérette et tout le monde était au courant. Donc c'était visible, cette visibilité. Aujourd'hui, on a cette facilité de rendre les choses, d'avoir un espace intime, parce qu'on a son téléphone portable qui est l'espace intime. C'est vraiment quelque chose que, généralement, l'autre n'est pas censé regarder. Et la deuxième chose, c'est que recruter des gens, au départ, quand on n'avait pas Internet, c'était un stade artisanal. C'est que pour arriver à contacter quelqu'un qui était potentiellement libre, on ne contacte pas 10 personnes dans la journée. Et là, on passe à un stade industriel. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une base de données de gens qui sont potentiellement contactables. Donc, ça facilite, mais on ne va pas transformer quelqu'un qui n'a pas cette propension à zapper, parce que ça lui paraît compliqué, fastidieux, ou pour toutes les bonnes raisons. Internet a juste facilité.
Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, revenons à Sophie qui a 51 ans. Elle nous explique les ficelles de ses aventures extra-conjugales sur Glidden. Glidden, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un site de rencontre qui, à mon avis, contrairement aux autres, ce que je disais tout à l'heure, va droit au but. C'est-à-dire que les gens ont envie de rencontres basées uniquement sur la sexualité. Et en fait, immédiatement, quand vous avez votre pseudo, que vous avez mis quelques petits mots de présentation, bien en fait, j'ai eu la sensation d'être assaillie par des demandes. Alors, soit des messages, soit des coups de cœur.
D'accord, parce qu'on peut, cliquer sur un bouton qui fait qu'on peut aimer cette personne, comme on ferait sur Facebook, par exemple, des coups de cœur, c'est ça ?
Alors, ce sont en fait les hommes qui envoient des coups de cœur aux femmes.
D'accord, ça veut dire « vous m'avez plu ».
Alors, je dois dire que j'ai eu beaucoup de messages et que je ne suis pas allée voir les coups de cœur. Et à partir du moment où ils écrivent un message, il y a un véritable échange qui peut se mettre en place. On peut recevoir 150 coups de cœur.
Ah oui, donc ça veut dire qu'ils font la démarche de dire « vous me plaisez » en cliquant sur un bouton, mais ils ne font pas la démarche de dire « bonjour, vous m'avez plu parce que ».
J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, le site est gratuit pour les femmes, mais pour les hommes, ils ont un crédit en fait. Et le message est payant. Donc, ceci explique cela.
Mais donc, c'est un site qui veut privilégier la présence des femmes plus que la présence des hommes dans ce cas-là.
Je pense que le rapport homme-femme est très largement en défaveur des femmes. C'est-à-dire, les hommes sont beaucoup plus nombreux.
Ça consiste en quoi, les échanges, plus ou moins? Est-ce que ça reste du profond? C'est assez léger?
Très léger, très humoristique. Et ensuite, tout dépend du timing de chacun. C'est-à-dire que je suis m'arrivée de converser avec un homme pendant 3 mois sans qu'on ne se soit vu. Et donc, on finit par avoir un petit peu une part de vie privée qui rentre finalement en jeu. Enfin, voilà, puisque chacun se livre un peu. Et puis parfois, ça a pu être une rencontre qui s'est faite en un jour et très immédiate.
Et après, il y a cette question de logistique. Mm-hmm. Comment on fait quand on est marié, quand on habite avec un homme et qu'on doit vivre une vie parallèle sans que cette personne ne le sache?
Alors en fait, mon mari étant très souvent en déplacement, j'ai des jours de liberté. Ensuite, je ne suis pas du tout pour les rendez-vous entre midi et deux. Je trouve ça très désagréable. Donc la plupart du temps, on se cale des rendez-vous soit en fin d'après-midi, soit en soirée, en fonction de l'agenda de chacun, qui n'est pas évident à déterminer. Et les rencontres se font plutôt dans la semaine, puisque le week-end, chacun repart vers ses activités familiales, sociales, quotidiennes.
Et l'échange se fait uniquement sur le site Gliden, ou est-ce que parfois il y a des échanges de textos, des échanges de, je sais pas, d'autres réseaux sociaux? Ou est-ce que ça reste dans le cadre communication uniquement sur Gliden?
En fait, très vite, on quitte Gliden, d'abord parce que les messages sont payants pour les hommes. Et en fait, oui, très vite, quand le feeling passe, on passe à la communication par mail.
Et ça, ça pose problème parfois?
Je pense que tout le monde est très attentif, et particulièrement les hommes qui trouvent des boîtes mail assez extraordinaires.
Et toi, ça t'arrive aussi de créer des comptes, avoir des mots de passe, de voir par exemple effacer ton historique, etc.?
Oui, parce que c'est important de... Non pas d'avoir une vie complètement cachée, parce que je ne la vois pas comme ça. Mon mari sait que parfois on s'éloigne. L'idée non plus n'est pas de tout dire et la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Mais je vois ça plus comme un espace de liberté qui est le mien, où je gère ces rencontres, un peu le piment de la vie comme je souhaite.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans la manière dont tu te perçois toi-même?
Énormément de choses en fait, parce que j'ai eu l'impression de me redécouvrir. D'avoir envie d'être féminine, élégante. Quand on va à un rendez-vous, on fait le maximum. Pour être jolie, pour être... je mets toujours des talons, des porte-jartelles. Et ils adorent. Ils adorent qu'on fasse attention à eux, en fait. Qu'on se fasse belle et ils ont autant envie que nous de partager un moment délicieux. Les couples connaissent des difficultés, plus ou moins longues. Maintenant, il y a tellement de divorces. Après, vienne que pourra de mon couple, mais je n'aurais jamais l'idée de vouloir m'attacher à un homme rencontré sur ce site, parce que la base n'est pas là. La base, c'est la relation sexuelle. Donc, dès lors qu'un homme commence un petit peu à s'attacher à vous, parce que lui aussi n'est peut-être pas heureux dans son couple tout en étant marié, pour moi, j'essaie de remettre les choses en place avec le plus de diplomatie possible. On n'est pas là pour ça, finalement.
Ce qui m'a frappée chez Sophie, c'est sa capacité à faire la part des choses entre sa vie maritale et ses aventures sexuelles. Ce site de rencontre lui a manifestement permis de s'épanouir dans une forme d'infidèle fidélité à son mariage.
RFI.
Écoute mon cœur parler d'amour à ton cœur. Écoute mon cœur, il n'a plus peur de ton cœur. Il te dit qu'aujourd'hui on s'aime. Mais quand tu t'en vas, mon cœur s'en va avec moi. Je ne l'entends plus, je suis perdue, j'ai si j'écoute mon cœur, il a choisi le meilleur. Et tant pis si demain je pleure, je suis bien, si
des médias, seconde partie. Nous poursuivons notre traversée des saisons des amours connectés. On a parlé d'amour à distance, de relations hyper connectées, de sites de rencontres extra-conjugales. Et dans le champ lexical du désamour, il est un terme étrange qui émerge. Vous l'avez peut-être entendu, c'est un terme anglophone, il s'agit de ghosting. Thibaut a 32 ans, il est youtubeur et son truc, c'est de décrypter les tendances et les termes à la mode.
Pour moi, le ghosting, c'est un terme que j'ai complètement incorporé à mon vocabulaire. Complètement.
C'est quoi ?
Alors, le ghosting, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, le ghosting, c'est, à la base, c'est une tendance qui est liée à l'avènement des réseaux sociaux. Je pense que ça n'obéit à aucune culture, à aucune langue. C'est un phénomène qui est assez mondial, assez généralisé, on va dire.
Mais ça veut dire quoi en, quand on traduit de l'anglais au français ?
Se faire fantômer. Fantôme, ghost, le fantômage, la fantomette. Non, le ghosting, bon, tout simplement, la définition est beaucoup plus simple hein, que la traduction. C'est le fait de disparaître totalement lors d'un début de relation. Qu'il soit, on va dire, bon, généralement, on l'emploie plus pour des termes, enfin, pour l'amour, pour ce genre de choses, mais bon, je pense que ça peut exister aussi en amitié. C'est le fait, au début, de couper court et de plus donner du tout de nouvelles. Donc, tu commences une relation avec une personne, tu n'as plus de nouvelles. Jusque-là, c'est triste, mais tout va bien. Sauf que maintenant, tu vas t'apercevoir que la personne qui donc ne te donne plus de nouvelles a aussi une activité à côté, qu'il participe à des événements, qu'il continue à rajouter des personnes, qu'il continue à liker des photos. Dans le fantôme, il y a quand même une partie un peu invisible, une partie visible. C'est cruel car finalement, il ne répond plus à tes messages. Donc tu es l'unique objet, on va dire, de son zapping mental. Et donc ça, pour l'ego, c'est terrible. Parce que généralement, en plus, c'est au début, quand ton principe, tout doit bien se passer, ça doit aller vite et non. Plus de nouvelles, alors qu'avant, il répondait. Hein. Plus de nouvelles, mais quand même une vie sociale, des likes, des machins et tout. Donc des interactions avec d'autres, mais pas avec toi. Ghosting, c'est terrible parce que c'est dans la partie ascendante de la relation, le début. Ce qui fait que c'est triste parce que si toutes les relations pouvaient durer, tu vois, genre le bonheur des tes trois premiers jours, du texto, le zazazou, le papillon, ça serait bien. C'est bien le ghosting, c'est pour ça que c'est pernicieux.
D'accord, et c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi personnellement dans ta vie ? Soit de te faire... Ah, les deux.
Ouais, en fait, non, je l'ai rencontré. Bon, c'est un garçon, je l'ai rencontré sur c'était un site. C'est un peu vieux hein, quand même. Hein. Je crois que ça devait être en 2000. J'étais en master, ça devait être en 2008. Et j'ai eu Facebook. Facebook, je l'ai eu en fin 2005. Donc j'avais déjà quand même un peu une vie dessus. Je l'ai rencontré, voilà. Ça s'était bien passé. 3-4 dates. Et puis bon, après, dans ma tête, voilà, pour moi, c'était terminé. Et j'ai le souvenir que du coup, il a continué à m'appeler. Je répondais pas. Et je pense que ça a duré quand même une semaine.
Pourquoi ignorer la personne et pourquoi ne pas lui dire directement, écoute, ça m'intéresse plus.
Moi, c'était de la lâcheté. Hein. Clairement, je te le dis franchement, moi, c'était de la lâcheté parce que j'avais pas envie. En plus, bon, c'était voilà, on s'était vu 4 fois, on n'avait pas encore couché, donc bon, c'était a priori parti pour un truc bien traditionnel et tout. Et puis bon, j'avais pas forcément envie de donner des explications. Donc là, c'est par lâcheté. J'en suis pas très fier. Hein. Après, je suis pas non plus partisan, tu vois, il y en a qui disent non, faut pas larguer par SMS, non, faut pas larguer par téléphone, ça c'est pas des trucs je m'embarrasse pas de ce genre de choses quand c'est moi qui largue, mais je l'ai fait une fois, tu vois, j'ai les dates précises, je me rappelle à quelle période c'était pour te dire à quel point ça restait quand même unique dans ma longue vie de relation sentimentale. Et évidemment, sinon ça serait pas très drôle, ça m'est arrivé aussi de me faire ghoster, qu'on ne me réponde pas. Oui, ça m'est arrivé l'an dernier. Ma malchance, c'est d'avoir un ego assez fort quand même. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu difficile parfois, mais là où c'est facile, c'est que je comprends très vite en fait. Après, c'est différent parce que moi, je suis conscient quand même, en tant que gay, d'avoir des partenaires qui sont pas forcément hyper à l'aise avec la question. Tu vois, il y a quand même ce côté-là de mec un peu. Et je me suis fait ghoster l'an dernier par quelqu'un. Il se trouve que voilà, on a pris un café, que on est venu ici. C'est passé ce qui s'est passé et très bien et tout et. Bref, et puis moi, 2 jours après, n'ayant pas de nouvelles, j'ai quand même envoyé un petit message en disant « Hey, tout va bien, tu vois ?» Donc, pas dans l'hystérie la plus totale. Et jamais une nouvelle. Mais j'ai pas relancé. Et c'était en, je sais pas, janvier, février, je crois. Donc oui, ça, c'est un ghosting, parce que c'est vraiment un beau ghosting. Ça a été un peu dur, parce que je me suis dit « Tiens, c'est drôle, c'est lui qui m'a contacté. » Puis après, se faire ghoster, c'est... Bon, voilà. Donc, l'ego en a pris un petit coup. Ou quand t'y penses, alors moi je suis client de Tinder, tu vois, mais c'est vrai, quand t'y penses, tu te poses 2 minutes, puis tu te dis putain, en fait, t'as des photos, et d'un geste de doigt, tu. Enfin, je sais pas, ça. Il y a un côté quand même dedans. Bon, j'aurais oublié ce que je te dis dans 2 minutes, hein, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez quand même un peu flippant quand même de ce genre de truc, quand même, je trouve. Je sais pas, il y a un côté très violent quand même, ce côté de rejeter d'un mouvement de doigt. En plus, t'as vu, tout est fait pour être vraiment avec le moins de. D'exercice possible, quoi. On te demande pas de te lécher ton coude s'il te plaît, ou de te toucher le nez avec la langue s'il te plaît pas. C'est tout est fait pour être dans le minimum d'effort. Donc je pense, voilà, que le ghosting est un peu, on va dire, le concept du ghosting est lié aussi à la rupture sans effort, on va dire. Fait de plus donner de nouvelles.
C'est-à-dire que la rencontre sans effort se traduit aussi parfois par la rupture sans effort.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Si ton cœur est plein d'amour, cette colère qui t'entoure, je la croise dans tes faubourgs et tout le long de tes artères.
Je pense que la jalousie tient un truc, c'est vraiment une double face, on est quelqu'un d'autre. On passe à des moments où on cherche des choses sans même savoir ce qu'on cherche en fait.
Et est-ce que c'est toujours de l'amour ?
Je suis pas certaine. Je pense que c'est plus de l'ego et une grosse dose de parano en fait. Pour garder mon anonymat, est-ce que tu peux m'appeler Sarah ? Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et j'habite Paris. Et un jour, en fait, un garçon avec qui je suis restée près de 7 ans passait son temps à me surveiller.
Elle se situe à quelle époque, ton histoire ?
Ça a commencé il y a plus de 10 ans et ça s'est terminé il y a moins de 3 ans. Donc j'avais entre 15-16 ans et... 20, 21, 22.
On était tous les deux assez jaloux. Il était un peu plus vieux que moi. Moi, c'était mon premier vrai copain. Lui, il avait déjà eu d'autres personnes avant. Donc au début, c'était c'est qui lui, c'est qui elle. C'était un peu dans les deux sens. Le truc un peu classique que tout le monde vit. Et finalement, petit à petit, ça s'est aggravé. Donc à fouiller dans les téléphones, à demander à l'autre de ne plus parler à telle ou telle personne. À l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, mais c'était MSN ou les Skyblogs, etc. J'avais des discussions avec des amis sur MSN assez, assez précis, sur des sujets très précis. Et il arrivait à un moment quasiment simultanément, ou en tout cas, disons, à J+1, à me ressortir quasiment mot pour mot une phrase que j'avais dite. Voilà, c'était vicieux. C'était pas direct, c'était étrange. Ou, ah, cette nuit, j'ai rêvé que t'allais voir lui et que t'allais lui dire ça et ça. Et en fait, il répétait une conversation que j'avais eue sur MSN avec quelqu'un d'autre en disant j'ai parlé à lui et on s'est dit ça. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit que c'était étrange. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai continué à être vigilante. Mais on s'est séparés une première fois. Et là, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un problème. Et en faisant quelques recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il avait en fait installé un logiciel espion sur mon ordinateur. Et donc, il voyait la moindre lettre, le moindre espace, le moindre mouvement sur mon ordinateur. En fait, il m'a envoyé un document sur MSN à l'époque qui ressemblait fortement à ce qu'on appelait une extension pour MSN, qui était MSN Jeux. Et il m'a fait passer ça pour un jeu en me disant qu'il fallait que je l'ouvre, que je le télécharge, que je l'ouvre, que je l'installe et que, voilà, et que ça allait faire un super jeu sur MSN. Or, il ne s'est rien passé quand je l'ai installé. Et en fait, avec les recherches, on se rend compte que c'est un virus basique, comme n'importe qui peut avoir un virus dans un email, et que ça donnait en fait accès à tout mon ordinateur. Aujourd'hui, tout le monde est plutôt au courant de ce qui se passe sur Internet, des virus, des choses comme ça, mais à l'époque, ça n'existait pas beaucoup. À l'école, nous en parlait pas, je travaillais pas, donc j'avais pas cette notion de sécurité. Et en fait, quand on découvre qu'on va fouiner un peu sur le net et qu'on se rend compte de tout ce qui existe, on se dit qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de se faire espionner par n'importe qui. Il a même demandé, peut-être payé quelqu'un, je ne sais pas, un ami à lui, qui son but, c'était sa mission, c'était de créer des adresses MSN, des fausses adresses MSN, de garçons, forcément, et de m'ajouter pour essayer d'avoir des discussions avec moi et de me draguer, et je ne sais pas, d'essayer de me soutirer des informations, aucune idée. En tout cas, il en a fait beaucoup, puisque à une époque, j'avais même fait une liste de toutes les adresses qu'il m'ajoutait, c'était quand même beaucoup, c'était une par jour, parfois une par semaine, deux par jour, c'était assez énorme. J'avais changé d'adresse mail entre-temps et ça revenait. Puisque pour ceux qui ont connu MSN, on a tous eu des spams, des gens qui nous ajoutent, même sur Skype aujourd'hui. Mais là, c'était vraiment très important. À l'époque de Facebook, c'était pareil. Des faux comptes, avec des fausses demandes d'amis et des gens qui viennent me parler sans cesse. Facebook a ajouté une autre dimension, puisque tout le monde est une cible potentielle. Et entre guillemets, pour me surveiller, il a juste à connaître des noms. Pour aller voir des profils, peut-être les ajouter même. De demander à des gens d'ajouter des gens. Enfin, ça rend les choses encore plus difficiles, même pour moi.
Mais pourquoi ? Pour leur parler ? Pour voir si, fouiller dans leur profil, pour voir s'il y a des éléments compromettants ? Enfin, pourquoi les ajouter ?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aller chercher peut-être des photos de moi, peut-être compromettantes, que j'aurais cachées. Peut-être des messages de moi sur des murs cachés. Peut-être, je sais pas, des messages en parlant avec la personne. Enfin, il y a une dimension tellement large dans Facebook qu'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir la vraie raison pour laquelle il faisait ça. Et je pense que même lui, il ne savait pas forcément. Il y a un moment donné, on en est à devenir... Enfin, j'ai été dans cet état aussi à cause de lui, à même lui le surveiller. C'était un peu le double jeu à une période.
C'est-à-dire T'en es arrivée à quoi, toi ?
À parcourir des centaines de pages de blog pour essayer de tomber sur une photo, pour essayer de tomber sur un commentaire, pour essayer de tomber sur un profil peut-être qui lui appartient avec une fausse identité. Et on se met dans un état de transe. Je me souviens avoir passé parfois des nuits entières. Et ah oui. À me rendre compte à la fin, me dire mais waouh, je suis folle ou... C'est l'envie de trouver un truc et peut-être trouver un truc compromettant pour me dire enfin je vais pouvoir le quitter. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça, parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis dit là c'est bon, j'ai la photo qu'il faut, j'ai le message qu'il faut et je vais pouvoir le quitter. Et en fait, pas du tout, enfin ça marchait pas, parce que soit j'avais pas le courage de le faire, soit quand je le faisais, bah, ça me retombait dessus.
Et comment ça s'est fini entre vous deux?
Mal.
Oui, bien sûr. Mais comment?
Ça s'est fini à une période où moi, j'en avais marre. Où j'en avais marre de me faire, entre guillemets, maltraiter. Même on peut enlever les guillemets. Mais on en est arrivé où quelques mois après, on s'est reparlé et, pour mettre les choses à plat. Il s'est quand même excusé de la manière dont il s'était comporté avec moi. Parce qu'il m'a dit « Ah, c'était bien telle ville, tel pays que j'avais visité l'année d'avant. » Et je lui ai dit « Mais comment tu sais ? C'est impossible qu'il sache. » Et il m'a dit « Bah, j'ai fait géolocaliser ton téléphone. »
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Il aurait mieux valu si j'avais su rester de place, se fondre dans le décor. J'aurais voulu si j'avais pu effacer sa trace et enterrer le corps. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore.
Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, je suis franco-colombienne, j'habite à Londres depuis 2 ans et demi et ma rupture avec mon ex-petit ami remonte à octobre 2014. Après avoir cassé, j'ai géré, pour pas le voir, pas avoir cette compagnie constante et ce rappel de pouvoir le contacter tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est j'ai arrêté de suivre.
C'est-à-dire ?
Quand tu vois sur ton... Tu rentres sur Facebook et normalement, tu as des publications des personnes. J'ai dit, je vais demander à Facebook de ne pas voir ces publications.
D'accord, donc tu as cliqué sur une option qui te permet de moins voir ce qu'il publie sur Facebook.
Moins voir, voire rien du tout. Comme il y a le chat sur Facebook, quand quelqu'un est sur Facebook en ligne et toi aussi, vous pouvez vous voir sur une espèce de liste à côté. On peut aussi éditer les personnes qui peuvent te contacter ou pas. Et moi, j'ai édité parce que si je l'enlevais des personnes qui pouvaient me contacter, alors ce qui se passait, c'est que je ne le voyais jamais dans la liste. Après, pour moi, son nom est devenu sa présence. Donc, je ne voulais pas voir son nom.
Pourquoi tu as décidé de moins voir ses publications sur Facebook plutôt que tout simplement le supprimer de Facebook, de ne plus être amie avec lui sur Facebook?
Je pense que j'étais pas trop... Parce que je voulais pas qu'il sache que j'avais du mal à l'oublier.
Vous aviez des photos en commun?
Jamais mises sur Facebook. On avait des photos en commun.
Donc il n'y avait aucune trace de vous en couple sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou quoi que ce soit? Il n'y avait aucune
trace. Aucune trace de nous deux, ouais, c'est vrai. Aucune trace. La mémoire. Des messages et les mails. En fait, ouais, une mémoire, mais à laquelle je peux seulement accéder moi-même. Donc Snapchat ne laisse aucune trace. Facebook et WhatsApp, il y a la trace des conversations, des messages privés finalement. Tu as vraiment la trace du premier message que vous êtes envoyé, la première fois où vous voulez faire contact, est-ce qu'on sort ou on ne sort pas, etc. Et voilà, ça c'est des trucs que j'ai jamais pensé à effacer. Mais ça, c'était la seule trace. Puis je voulais pas. Je me disais, mais bon, si je l'efface, si un jour je veux consulter pour une raison ou une autre, et je sais pas pourquoi je voudrais consulter, parce que je pense que c'est absolument nocif. Donc je vais pas effacer. Donc j'ai pas effacé pendant très très longtemps.
C'est-à-dire ?
Donc j'ai pas la conversation de WhatsApp. alors que ça me bouffait de l'espace de mémoire de mon portable. J'ai pris, je sais pas, je pense que 5-6 mois à l'effacer. Je l'ai pas effacée. Je la voyais pas, mais je voulais pas l'effacer. Du coup, j'effaçais pas les autres pour me faire un petit message à moi-même, comme c'est pas que tu n'effaces pas la sienne, c'est que tu n'effaces pas les conversations. Donc voilà, j'avais plus de mémoire. Je pouvais pas prendre de photos pendant 6 mois. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'espace. Je me suis dit, bon, alors, c'est un petit peu bizarre si tu effaces pas. Donc j'ai effacé. Mais WhatsApp m'a demandé si je voulais pas me l'envoyer au mail. Et alors, WhatsApp qui me demande, vous pouvez même lire entre les lignes. Ah, tu penses que tu as fini ta relation? Tu penses que tu as tout oublié? Dernière épreuve pour toi. Est-ce que tu l'as vraiment oublié? Est-ce que tu veux t'envoyer toute la conversation comme une psychopathe au mail? Et moi, j'ai fait, oui, s'il te plaît. Donc, j'ai envoyé la conversation à Gmail. Après un bon moment, je pense que le jour où je me le suis envoyé, j'ai revisité une fois cette conversation. C'était une curiosité parce que je ne me souviens plus de rien, en fait. Comme je ne l'ai jamais effacé sur Facebook, il y a presque un an, je ne sais pas ce que j'ai, tu vois, un moment de très... Facebook est terrible pour ça, parce que tu perds ton temps, tu te souviens de quelqu'un, tu tapes le profil, c'est tellement facile, et puis, bim, je tombe sur les photos de vacances de lui et sa nouvelle copine, que j'ai compris très facilement que c'était sa nouvelle copine. Je te jure, c'était les photos les plus romantiques. On dirait qu'ils ont eu un photographe qui les a suivis pendant un mois et qui a vraiment choisi les moments les plus romantiques. Donc, c'était un peu... Oula, je voulais vraiment pas savoir que mon ex a une copine qui a ses photos absolument romantiques. Tu dis, aïe, ça niaise et tout, mais ça te fait un petit peu mal. Mais quoi que ça m'a aussi aidée, tu vois. J'ai aussi pensé que, ben oui, la vie continue et puis... Il sourit tellement, j'espère que ça marche et qu'il est heureux. Voilà. Donc en même temps, c'était une petite thérapie pour vraiment passer la page et se dire, ben, je lui souhaite du bien, je lui souhaite du succès avec son couple. Et ça te fait du bien et tu passes.
Ouais. Camille n'était pas au courant, mais vous pouvez désormais éviter de tomber sur les photos de vacances de votre ex et de sa nouvelle conquête. Sachez que Facebook propose enfin l'option « prendre ses distances », une alternative à la suppression pure et simple de vos souvenirs communs.
C'est un fait, les séparations sont de plus en plus fréquentes. On l'entendait déjà la semaine dernière avec Marie Bergström, sociologue du couple et de la sexualité. En France, en tout cas, l'INSEE fait état d'une forte augmentation des divorces et des ruptures de Pacs par an. Depuis le milieu des années 90, l'INSEE relève un bond de 50% en 20 ans de ces séparations. Difficile, en tout cas, de faire un lien de cause à effet. L'inflation des outils à notre disposition et l'hyperconnexion généralisée ne sont pas nécessairement responsables de cette croissance des déboires amoureux. Et même, comme on a pu l'entendre dans certains témoignages, ces outils, quand ils sont bien utilisés, restent des cordes en plus à notre arc pour renouveler nos amours, entretenir la flamme du désir ou s'extirper des réseaux de connaissances habituels. Alors, finalement, Catherine Lejal, est-ce qu'Internet a remis définitivement en cause le modèle du couple et de l'amour?
Alors, les sociologues comme Irène Théry ou François de Singly, qui sont vraiment des sociologues du couple, vous diront de toute façon le rêve de tout même enfant, c'est quand même la dyade, c'est quand même l'idée de deux personnes. Donc ça, c'est pas remis, on rêve pas d'un trio, il est hétéro ou il est bi ou il est... Ça, c'est pas là qu'est le problème. C'est quand même l'idée d'avoir quelqu'un qui est à côté de vous, qui comble votre solitude, qui va combler vos manques, François de Singly parle de la vision Pygmalion, qui va vous aider à vous révéler, qui va vous aider à franchir des obstacles que vous aviez pas envie de franchir, qui est un allié, qui est quelqu'un. Ce couple qui durait toute la vie, aujourd'hui, c'est plus ce qu'on cherche. On avait un travail à vie et aujourd'hui on nous dit « Ah, mais il faut être adaptable ». Donc ça devient un paradigme positif. Il faut avoir enchaîné une succession de choses. Dans le monde professionnel, dans le monde tester plein de sports, plein de musique, on est dans ça. Et quelqu'un de complet, c'est quelqu'un qui a justement cette vision panoramique. Et on ne peut pas mettre tout d'un coup, dire c'est valable pour tout, mais pas pour la relation amoureuse. Donc ce changement de paradigme, il finit aussi par arriver dans la relation amoureuse. Et on est, c'est pas certain que le couple qui dure soit... c'est à la fois un rêve, une illusion, quelque chose... Mais en même temps, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Il y a un bouquin que j'adore, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Et à un moment, il explique qu'il y a deux types d'infidélité. Je peux vous lire le passage que j'ai mis un petit post-it dedans. Il y a deux types d'infidèles. Il y a celui qui a un type de femme qu'il aime. Il parle des hommes, en l'occurrence. Chaque fois qu'il croisera une femme qui correspond à ce profil-là, bah forcément, il va en tomber amoureux. Et il y a au contraire celui qui aime la femme et qui va avoir tout vu. Et donc, il lui faut une blonde, une brune, une rousse, une avec des gros seins, des petits seins, etc. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans toutes nos activités. On nous dit il faut être dans l'adaptabilité, il faut être dans la flexibilité, il faut être éclectique. C'est-à-dire que, quelles que soient les choses, on dit mais non, tu ne peux pas être que spécialiste de tel type de littérature ou tel type de cinéma. C'est une fermeture. Et à partir du moment où on est dans ce paradigme-là, le couple unique n'est plus quelque chose qui peut faire rêver. Alors que dans un couple, on peut évoluer ensemble et tester plein de choses, et on verra aussi des choses différentes. Mais c'est qu'on est dans un paradigme qui, là, est irrémédiable. Il est vraiment, au moins pour quelques décennies.
Des amours connectés, l'intimité à l'épreuve des swipes, des snaps et des likes, un reportage de Mélissa Barra. Merci Mélissa.
Merci.
Un projet sonore et numérique de toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Si d'aventure vous souhaitez revivre cette traversée sonore des amours connectées, c'est très simple, vous pourrez retrouver tous les témoignages en vidéo sur un mini-site, en version longue sur les podcasts de ces deux émissions spéciales, mais aussi sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier-media. L'Atelier des médias, une belle émission préparée par Mélissa Barra, Constance Léon, Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos et Camille Deloche. À la réalisation, l'indispensable Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
Je repense à nos amours, ça me rend mélancolique. Ta passion pour Zola, la musique synthétique que je peux plus écouter, il doit y avoir un hic. Sans que me reviennent en mémoire ces flashbacks extatiques. À toi mon amour, à un détail symbolique, je revois toujours tes dents un peu asymétriques, ivoire au bord coupant qui m'a vampirisé, dont je cherche le mordant dans mes nouveaux déserts.